Je commence plus jamais par bonjour, donc je me suis dit que pour une fois, j'allais recommencer par bonjour. Je vous dis plus bonjour. Je trouve qu'il y a une question qui est importante. Moi, j'essaie de traiter de questions qui sont plutôt importantes survolant, mais une des questions, c'est la manière dont on est gouverné. On est pas mal challengé aujourd'hui, en particulier à travers les technologies. C'est des sujets que j'ai déjà abordés survolant, mais vraiment sur ce sujet de gouvernance, de la manière dont on est gouverné, les impacts que la technologie peut avoir, tant de manière positive que de manière négative. Ça, c'est un sujet que j'avais pas vraiment traité. Et c'est pour ça que je reçois Primavera de Filippi, qui est une chercheuse du CNRS et de Harvard, qui est extrêmement focusée sur ces questions-là, qui a écrit un bouquin sur la blockchain et la loi, qui vraiment a approfondi, essayé de comprendre aussi dans les systèmes d'autres animaux pour voir comment on pouvait trouver des systèmes de gouvernance intéressants. Donc c'est une conversation qui se veut en tout cas accessible, qui va vous permettre aussi de vous poser des questions, je crois, importantes. Donc voilà. Aussi, si vous pouviez mettre un avis sur iTunes, mettre même 5 étoiles simplement, et sans écrire forcément un long commentaire, ça aiderait vraiment beaucoup de podcasts à remonter dans les algorithmes et à permettre à d'autres personnes de les découvrir. Donc si vous avez un iPhone, évidemment, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, je vous laisse avec ce podcast. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour Primavera.
Bonjour.
Donc tu es chercheur au CNRS, à Harvard, sur un sujet qui est la gouvernance. Et alors, en fait, ça fait quand même un bon quart d'heure qu'on discute de ce sujet et j'arrive pas à me définir ce que c'est que la gouvernance et comment attaquer ce podcast justement. Je sais que t'es passionnante, donc je me suis dit, c'est absolu, faut absolument qu'on se rencontre, faut absolument qu'on fasse cet épisode. Et en même temps, je me suis dit, mais mince, mais la gouvernance, mais de quoi on va parler? Alors, j'aimerais bien comprendre. D'abord, pourquoi tu es chercheur sur ce sujet-là? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut définir? Comment tu peux définir la gouvernance?
Ouais, donc tu me délègues à moi la responsabilité de répondre à cette question impossible. Donc pourquoi est-ce que je m'intéresse à la gouvernance? Peut-être on commence par ça avant de définir qu'est-ce que c'est la gouvernance. Essentiellement, depuis toute petite, je me suis beaucoup intéressée donc dans les communautés internet à justement ces nouvelles formes de gouvernance qui émergent sur internet, qui en fait se situent ce n'est pas une gouvernance hiérarchique traditionnelle donc d'une boîte, ce n'est pas non plus une gouvernance formalisée, etc., tel un gouvernement, etc. Donc c'est très grassroots, bottom-up, mais il y a quand même des pouvoirs, il y a des dynamiques de pouvoir, etc. Et en fait, puisque je participais à ces communautés, au début, j'avais cette vision comme c'est extrêmement fascinant, parce que justement, ça ressemble, en fait, quand tu as une vision extérieure, ça ressemble à cette gouvernance fantastique où, en fait, il n'y a pas de chef et tout le monde se coordonne de façon organique, etc. Et puis, en fait, une fois que tu rentres dedans et que tu fais partie de la communauté, tu te rends compte qu'en fait, cette apparence en fait de gouvernance sans formalisme, en fait, y a des pouvoirs cachés. Et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, d'une certaine façon, il y a des nouvelles opportunités d'expérimentation. Mais en même temps, justement, le manque de formalisme, ça fait si que. Lorsqu'on a une gouvernance hiérarchique très formalisée, en fait, on sait exactement qui est dans le pouvoir. On peut observer les décisions qui sont prises. On peut, comment on dit ça en français, je sais pas. On peut les accountability. Donc on sait, on peut faire appel à une décision. On sait à qui s'adresser, etc. Donc on a peut-être moins de pouvoir, mais en fait, on sait qui a le pouvoir et donc ça nous donne du pouvoir parce qu'on
D'accord,
peut superviser, monitorer ce qui se passe.
comprendre.
Alors que quand tu es dans un système informel, eh bien, tu sais pas en fait qui décide parce que les décisions se font informellement, elles se font derrière les rideaux, etc. Et
À la
donc, en
machine à
fait,
café.
voilà, exactement, mais c'est ça en fait. Et bon, pour pas dire que de toute façon, c'est le cas aussi dans les formes plus hiérarchiques,
Bien sûr.
mais une fois que la décision est prise officiellement, on a une procédure, etc. Donc, on sait comment s'adresser. Alors que dans ces systèmes-là, Tout le monde a une opportunité potentiellement d'agir et de prendre des décisions, mais en fin de compte, les utilisateurs ou les membres d'une communauté, ils ont moins la capacité de savoir d'où provient la décision, quelles sont les décisions en fait, et du coup de réagir surtout.
C'est marrant parce que j'ai vu une stat aujourd'hui, avant que tu définisses ce que c'est que la gouvernance, mais tu l'as déjà un peu fait. J'ai vu une stat aujourd'hui qui dit que 60% des Américains pensent que les journalistes payent leurs sources. Mm. Et tu vois, ça revient un peu à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de suspicions en ce moment sur nos modèles de gouvernance de gouvernement, en fait, à la manière dont les médias fonctionnent, à la manière dont les gouvernements fonctionnent. Pour toi, comment ça se fait qu'on challenge autant aujourd'hui justement. Alors attends, peut-être d'abord définir ce que c'est que la gouvernance et ensuite pourquoi on challenge autant les systèmes de gouvernance.
Ouais. Je ne vais pas définir la gouvernance, mais je vais essayer d'identifier les composantes de la gouvernance. Et je pense qu'il y a deux catégories en tout cas importantes. Donc un, c'est tout l'aspect donc, de... Je vais le dire en anglais et après je vais essayer de le traduire en français. Donc en anglais, il y a la catégorie de « sense making ». Okay. Donc, c'est de donner sens aux informations et la catégorie donc, de decision making, c'est donc de la prise de décision. Mm-hmm. Et donc, la partie en fait de donner sens aux informations, bah, c'est de se tenir informé, donc c'est les médias, etc. C'est la délibération, c'est tout ce qui se passe avant la prise de décision qui va en fait nous permettre de prendre une décision informée. Et ça, c'est un élément absolument fondamental qui... trop souvent, en fait, est oublié parce que lorsqu'on parle de gouvernance, très souvent, on va juste observer quel est le mécanisme par lequel on va prendre les décisions. Donc, quelle est la procédure, la formalité, etc. Mais en fait, c'est une partie assez moindre. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est surtout que toute la partie de sense-making, donc la partie où on va essayer de donner sens aux informations, est en train, en fait, de s'écrouler. Ou pas de s'écrouler, mais est en train d'être cooptée par certains, bah, surtout donc, les médias, les fake news et tout ça. Mm-hmm. Et ça fait que si notre système de sense-making ne fonctionne pas, bah, on peut même avoir le système de decision-making le plus parfait au monde, ça va pas
ça
du tout marcher,
plus,
quoi.
Hein, parce que du coup, t'as pas la base.
Exactement. Mmh. Et je pense que ce qui se passe, c'est que en fait, on n'a pas vraiment changé nos mécanismes de prise de décision. Mais pourquoi justement il y a cette perte de confiance au sein donc des systèmes de gouvernance? Je pense que c'est parce que on est en train d'attaquer. Il y a un affaiblissement des mécanismes et des institutions qui permettaient de donner sens à l'information.
Et comment c'est lié à quoi? C'est lié à la technologie?
Bah, je pense pas que c'est lié que à la technologie, mais c'est clair que la technologie, elle contribue pas mal. ça, il n'y a aucun doute. Et je pense que c'est un peu le paradoxe de l'Internet, c'est-à-dire que l'Internet qui tout d'un coup nous permet à tous de s'exprimer et de délibérer, enfin, les promesses initiales de l'Internet qui étaient fantastiques, de cette espèce de sphère publique en réseau. Et puis en fait, on se rend compte que bah oui, tout le monde peut s'exprimer, mais il y a pas tout le monde qui peut. Il y a trop d'informations, il y a trop de gens qui s'expriment, et puis on ne sait plus quelle est la voix que l'on veut écouter et quelle est celle que l'on ne veut pas écouter.
Il y a trop de gens qui s'expriment, et en même temps, peu de gens qui s'expriment. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on disait dans un podcast précédent sur la démocratie et les réseaux sociaux, finalement, il y a, la stat, c'est que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, mais même sorti de là, les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est une partie qui est assez fine, assez faible. On dit en fait que c'est 1% des gens qui s'expriment, 10% des gens qui commentent et puis 90% finalement des gens qui lisent. Donc c'est clairement pas c'est clairement pas la majorité. Et puis en plus, on sait que plus t'as des propos disons radicaux, plus l'algorithme va faire remonter ce propos. Donc nécessairement, tu vois un propos qui est particulier. Et c'est peut-être pour ça aussi, en France en tout cas, tu sais bien qu'on parle beaucoup de démocratie directe, on réfléchit à toutes ces problématiques-là. Toi, t'en penses quoi de ce système de démocratie directe? Tu penses que c'est un bon moyen de faire de la gouvernance est-ce que tu penses que ça résout le problème justement faire du sens de l'information?
Je pense que non, justement, c'est-à-dire que La démocratie directe, ça implique que tout le monde soit informé sur tout. Mmh. Et déjà, c'est pas le cas. Premièrement, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas spécialement intéressées à quelque chose plutôt qu'autre chose. Deuxièmement, c'est parce que si tout le monde va s'exprimer, bah c'est aussi facile justement d'utiliser le média pour aller manipuler l'opinion publique.
Bien sûr.
Donc d'une certaine façon, ça retourne. Bah oui, le système de décision, super. En théorie, c'est génial que tout le monde puisse s'exprimer, pas de problème. Le problème, c'est justement si on n'arrive pas à gérer bien la partie de sense-making, bah ça ne va pas marcher. Et je pense qu'on doit partir du présupposé qu'on a une situation actuelle dans laquelle on n'a pas une... Et je pense que c'est impossible. On n'aura jamais une information complète et pour tout le monde. C'est impossible. Donc, étant donné l'imperfection de cette première partie de la gouvernance, on doit concevoir un système dans la deuxième partie de la gouvernance qui prenne en compte cette imperfection.
Donc, la prise de décision.
Ouais. Voilà. Mmh. Et donc, ben, enfin, tu vois, par exemple, je pense qu'il y a plusieurs mécanismes en fait, qui sont en train d'être proposés.
Ouais.
Je pense que la démocratie directe, sincèrement, en tant qu'idéal, super, mais en pratique, je pense que ça va être compliqué
pas.
Et ça risque justement d'être manipulé. Tu as par exemple les mécanismes de démocratie liquide, de démocratie par délégation, c'est super intéressant aussi. C'est pareil, c'est des systèmes, en théorie, c'est super intéressant. Après, on ne l'a pas vraiment testé.
Tu peux expliquer la démocratie liquide et
La démocratie liquide, c'est-à-dire qu'on peut fragmenter nos votes et chaque fragment de notre vote, on peut le déléguer à une personne que l'on considère représente nos valeurs, mais aussi a plus de connaissances. Donc, par exemple, moi, je pourrais dire, moi, je m'y connais très, très bien en économie, donc je vais voter pour ce qui concerne cette catégorie. Par contre, je ne m'y connais pas spécialement en santé ou en environnement. Et donc, je vais déléguer mon vote à une personne que je considère va représenter mes visions. Et donc, d'un côté, ça permet justement de ne pas tout simplement mettre tout mon vote chez une seule personne, mais de fragmenter vers différentes personnes, tout en sachant que je peux toujours retirer ce vote. Et donc, ça permet, en fait, donc, les représentants, évidemment, ils ont une responsabilité, puisque... Donc, tu as quand même une forme de candidature, puisqu'ils vont essayer de collecter un maximum de votes, mais ils restent toujours sous la responsabilité qu'on peut retirer je peux retirer mon proxy, d'une certaine façon. Et l'idée, c'est justement de faire émerger des acteurs qui s'y connaissent bien dans une chose, mais tu peux pas t'y connaître bien de partout. Et c'est pareil. Moi, j'aime un candidat X parce que justement sa politique économique, je suis complètement d'accord, mais ça se trouve je suis absolument pas d'accord avec sa politique environnementale. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis bloquée. Je dois faire des compromis entre ces acteurs. Avec la démocratie liquide, l'idée, c'est on a moins besoin de faire des compromis puisque on va identifier des représentants différents. Donc ça, c'est l'idée. Et c'est un modèle intéressant. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas testé. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir ces concepts en théorie, mais tant qu'on ne l'a pas testé en pratique, le diable est dans les détails.
Bien sûr.
Et si on ne le met pas en pratique, si on ne voit pas une implémentation précise, parce que le concept peut être implémenté de façon différente, et c'est seulement là qu'on va pouvoir comprendre est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, comment ça ne marche pas, comment on peut le... Sinon, il y en a un autre qui est assez intéressant, qui est en train d'être proposé en ce moment, c'est le quadratic voting. C'est-à-dire que c'est pas la démocratie directe où effectivement tout le monde a exactement le... Enfin, tout le monde a le même voix. Mais, donc, en fait, ta voix, tu as des crédits. Donc, chaque individu, on va dire, ils ont 100 crédits. Et je peux, avec ces crédits, j'ai le droit d'acheter des votes. Et donc, la spécificité de ce modèle, c'est que donc pour chaque typologie de vote, je peux les acheter. Donc, plus j'y tiens, plus je peux acheter des votes, mais par exemple, à chaque fois, ça va coûter deux fois plus. Donc, mon premier vote, il va coûter un crédit. Mon deuxième vote, il va en coûter deux. Mon troisième vote, il va en coûter quatre, etc.
D'accord.
Et donc, en fait, ça veut dire que les gens qui sont extrêmement passionnés par rapport à une question, ils vont acheter plusieurs votes et donc ils auront plus de poids. Mais par contre, le fait qu'ils aient plus de poids sur ce vote, ça veut dire qu'ils ont beaucoup moins de poids sur les autres qui sont moins intéressés. En théorie, c'est pareil, ça n'a jamais été testé. Donc, en théorie, ça veut dire que les gens qui sont experts et qui tiennent vraiment à certaines questions, bah justement, ils vont voter là-dessus. Mais ça veut dire qu'ils ne peuvent plus utiliser les votes, les crédits qu'ils ont utilisés. Donc, plus, si j'ai plus de voix si je fais un vote de partout, parce que ça veut dire que j'ai 100 voix. Mmh. Alors que si je préfère, parce que j'y tiens vraiment à cette décision environnementale, je préfère acheter beaucoup de votes dans la section environnement, ben en fait, je vais, puisque c'est au carré, mmh, je vais utiliser tous mes crédits là-dessus et j'aurai plus de voix. Mais plus en fait, j'aurai seulement, j'aurai peut-être 10 voix ici et j'en ai 0 dans les autres. Alors que les autres, ils en ont 100 s'ils font un pour chaque. D'accord, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un autre système. Pareil, très intéressant en théorie, mais on ne sait pas en pratique.
Il me semble que sur Thinkerview, vous aviez parlé d'un autre système qui était de voter pour des idées, mais pas pour un candidat. En fait, tu votes pour une idée d'un candidat, et puis ensuite, si la personne fait l'idée, bah, c'est elle, tant mieux, mais si ce n'est pas elle...
Oui, enfin, il y a plein de modèles. Le truc que je trouve intéressant, c'est effectivement que je pense que depuis quelques années, en tout cas... il y a beaucoup de réflexions qui se font autour de quels sont les nouveaux modèles. Enfin, tu as la futarchie et tout. Tu as tous des nouveaux modèles de nouvelles formes de gouvernance. Et le problème, c'est qu'on reste toujours dans ce modèle théorique parce qu'en fait, on n'a pas trop d'espace dans lequel de champ d'expérimentation pour tester. Et donc, en fait, on reste complètement dans l'incognito sur comment est-ce que ça va fonctionner, quoi.
Et du coup, je sais que tu as étudié un petit peu les systèmes de gouvernance, pour le coup, chez les animaux. Et on parle pas mal de biomimétisme en ce moment. Est-ce que tu as vu des modèles ou de l'intelligence dans d'autres... espèces qui pourraient être intéressantes pour nous, pour les humains, je veux dire, puisque la démocratie est remise en question à cause de la technologie. On parlera aussi peut-être d'intelligence artificielle tout à l'heure, mais ça peut être intéressant de discuter de ça. Mais est-ce que tu as vu des modèles, par exemple chez les fourmis, je sais que tu as étudié les fourmis, mais qui peuvent être intéressants?
Alors moi, il y a quelques années, j'étais très très intéressée à essayer de... Donc, j'ai toujours essayé de comprendre comment est-ce qu'on peut créer des formes de gouvernance qui sont les plus plates, donc qui ne vont pas impliquer justement ces formes de concentration des pouvoirs et de hiérarchisation, tout en maintenant une forme de coordination, ce qui est pas facile. Et donc, il y a le modèle de la stigmergie, qui est donc le modèle des fourmis, des abeilles, des oiseaux quand ils volent en groupe. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais de leader. Le concept de leader n'existe pas. C'est juste que chaque animal va laisser des traces. Et ces traces vont communiquer aux autres un état des lieux. Et donc, ils vont décider comment continuer à interagir à selon de ces traces. Et en fait, chaque animal laisse des traces. Et c'est l'intelligence collective fondée en fait sur ces traces plutôt que sur le fait que quelqu'un a décidé. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre des décisions par nous-mêmes, mais grâce à l'information qui nous est fournie par le collectif. Après, évidemment, ça marche bien dans le cas des fourmis ou dans le cas des... Quand c'est des organismes en fait extrêmement simples et qui n'ont pas besoin de... Qui n'ont pas motivation de tricher ou de laisser des traces qui sont incorrectes, parce que sinon, le collectif ne fonctionne pas si ça se passe. La question, c'est comment est-ce qu'on fait à transposer ces modèles qui sont très, très intéressants dans le monde des humains. Et donc, il y a plusieurs personnes, justement, qui ont pris cet exemple pour décrire le fonctionnement de Wikipédia. Mmh. C'est-à-dire que Wikipédia, en fin de compte, c'est une forme de stigmergie un petit peu plus sophistiquée. C'est-à-dire que c'est tout simplement des gens, ils laissent des traces, ils continuent à laisser des traces. Il n'y a pas... Après, oui, parce que Wikipédia, éventuellement, justement, a dû créer des formes de bureaucratisation scores, et de gouvernance. T'as les administrateurs, t'as les éditeurs, etc. Ouais. Donc, éventuellement, il a fallu créer ça parce que, justement, il y avait des conflits. Mm-hmm. Et je pense qu'en fait, le modèle de la stigmergie, c'est fantastique si on arrive à avoir un alignement parfait de chaque individu au sein de cette collectivité. Et ça marche très bien chez les animaux parce que, instinctivement, ils ont cet alignement d'intérêts. Chez les humains, le problème, c'est que ça devient compliqué lorsqu'il y a certaines personnes qui ne sont pas alignées.
Parce qu'on est individualiste.
Parce que certaines personnes sont individualistes. Et en fait, dans le collectif, évidemment, tout le monde a une incentivation à faire que tout marche bien parce que tout le monde y gagne. Mais le jour où il y a des gens qui commencent à faire les free riders, en fait, ça casse le modèle. Ouais. Parce que Évidemment, tout le monde a un incentive que l'ensemble marche, mais tout le monde individuellement a une incentivisation à ne pas contribuer, parce que de toute façon, les autres sont en train de contribuer. Et sauf que si je me rends compte que quelqu'un ne contribue pas, ben, je ne vais pas contribuer non plus, et ça contamine en fait le collectif, et tout d'un coup, ça casse. Et donc, il faut créer des mécanismes dans lesquels il y a toujours une incentivisation aussi bien collective qu'individuelle à contribuer de façon correcte à cette intelligence collective.
Et ça, c'est compliqué.
Et ça, c'est très compliqué, ah. Voilà. Et je ne vais pas dire le mot, mais il y a...
Tu as le droit de dire le mot.
Il y a plusieurs projets au sein de la blockchain qui essayent de faire ça.
D'accord.
Voilà, j'ai dit le mot.
Non, mais on a le droit de parler de blockchain. Je ne voulais pas faire un sujet sur la blockchain. Parce qu'en fait, pour la blague, Primavera a écrit un bouquin sur la blockchain. Et comme on a déjà traité deux fois de la blockchain, je ne voulais pas faire un sujet sur la blockchain. Pour moi, la blockchain, c'est juste une solution et pas un sujet en tant que tel. Mais bien sûr, on va parler de blockchain. Ce n'est pas un mot interdit. Et justement, tu parles de blockchain. La technologie, donc on l'a vu, ça pose des problèmes dans les systèmes de gouvernance, en particulier donc les réseaux sociaux. On en a parlé un petit peu. Il y a d'autres problématiques qui se posent avec l'intelligence artificielle. Alors en particulier, alors là, on n'est plus sur les gouvernances de pays, mais plutôt sur des gouvernances ou d'éthique, typiquement une voiture ou autre. C'est quoi, alors, d'un côté, peut-être les problèmes ou les défis que génèrent les technologies, et peut-être de l'autre côté, et là, tu auras l'occasion de parler de blockchain, les solutions qu'elles peuvent proposer.
Non, enfin, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas si la blockchain apporte des solutions ces questions. Mais non, pour moi, en fait, c'est deux formes, deux questions extrêmement différentes, mais qui toutes les deux ont leur intérêt. Et en fait, c'est... Les deux se rapportent à la question de l'autonomie. Enfin, en quoi l'intelligence artificielle soulève des nouvelles problématiques de gouvernance et en quoi la blockchain soulève des nouvelles problèmes de gouvernance, c'est parce que tous les deux, ils ont cette nouvelle forme d'autonomie, mais c'est une autonomie très différente. L'intelligence artificielle, c'est une autonomie décisionnelle, c'est-à-dire qu'on crée des systèmes qui sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes, donc sur quelle est la meilleure façon d'agir, de coordonner, etc. Mais par contre, ils sont toujours d'une certaine façon contrôlés ou maintenus, enfin, ils sont sous l'emprise d'un opérateur.
Bien sûr.
Alors que lorsqu'on se déplace chez la blockchain, ils n'ont pas du tout d'autonomie décisionnelle parce que très souvent, c'est des systèmes super simples. Par contre, ils ont une autonomie opérationnelle, ce qui est super intéressant aussi, mais pour des raisons différentes. Et donc, les deux soulèvent des problématiques ainsi que des opportunités quand il s'agit de gouvernance. Donc, d'un côté, est-ce que vraiment la gouvernance. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle nous permet justement de prendre des décisions qui sont meilleures que celles des humains, avec toutes les questions autour de si on leur donne, s'ils apprennent par rapport à nos décisions, de toute façon, ils ne seront pas tellement meilleurs que nous puisqu'on prend des décisions mauvaises. Donc, ils apprennent de nos décisions modèles, ils prennent tous nos biais, etc. Donc, comment faire apprendre un système d'intelligence artificielle pour qu'il s'émancipe par rapport à nos biais, par rapport à nos erreurs qu'on a fait dans le passé? Mais de façon plus problématique, selon moi, c'est surtout, est-ce qu'on peut donner suffisamment d'informations à ces systèmes pour qu'ils prennent une bonne décision? Parce que de toute façon, ça reste, on va sélectionner un certain nombre de données qu'on peut traduire dans un langage informatique pour qu'ils soient compris par ces machines. Et ils vont peut-être arriver à des décisions intéressantes par rapport à ces données, mais ils ne vont jamais être capables de prendre en compte tout ce qui est autour. Donc, il y a des exemples intéressants. On voit pourquoi une voiture a fait un accident, mais si on analyse seulement les données que le système il avait, en fait, il l'a très bien fait. C'est juste qu'il n'avait pas pris en compte l'environnement. Et donc, à moins que ces systèmes ils sont capables de collecter suffisamment d'informations et de traiter toutes ces informations pour peut-être prendre une décision. Et ensuite, la deuxième problématique, selon moi, très importante dans l'intelligence artificielle, c'est le manque d'interprétabilité. C'est-à-dire qu'une fois qu'une décision est prise, donc ça revient à la discussion au début, c'est absolument fondamental de savoir pourquoi une décision a été prise pour pouvoir justement la remettre en cause, pour pouvoir faire un appel, etc. Alors que lorsqu'on a un système d'intelligence artificielle qui prend une décision et on n'a aucune idée pourquoi cette décision a été prise, en fin de compte, on a perdu complètement le pouvoir de répondre et de réagir à cette réponse, à cette décision. Donc, pour moi, ça, c'est des problèmes fondamentaux. C'est-à-dire que je pense qu'on peut toujours améliorer ce système et on peut l'optimiser. Et je pense qu'effectivement, on arrive dans certaines situations à des systèmes qui effectivement fonctionnent relativement bien. Le problème, c'est que ils fonctionnent bien, mais on perd en fait la substance de tour. On perd le procès équitable, on perd la transparence et l'universalité des règles. Et surtout, lorsqu'on applique ça dans le domaine du droit et du contentieux, ça devient absolument abominable.
Ouais. Et alors du coup, d'ailleurs, tu me parlais tout à l'heure, avant qu'on commence, de l'exemple de la voiture qui a un accident et en fait, et qui tue une personne. Et c'était hyper intéressant ce que tu me disais, parce qu'en fait, je pense que tout le monde réalise pas à quel point l'éthique et la morale sont des choses qui sont très apprises et qui sont très culturelles, donc et très locales aussi. Et j'aimais bien ton exemple sur l'analyse qui était faite d'un pays à l'autre. Est-ce que tu peux en parler 2 minutes?
Oui, donc ils ont fait un site web où les gens, en fait, ils doivent répondre à des centaines de questions par rapport à, il y a une voiture, elle doit prendre un choix, est-ce qu'elle va tuer un groupe de 5 personnes sur la gauche ou est-ce qu'elle va tuer un petit bébé sur la droite? Est-ce qu'il va tuer 2 femmes sur la gauche ou un groupe de personnes plus anciennes, etc. Et donc, à chaque fois, l'utilisateur doit choisir et donc exercer sa moralité pour aider le système à comprendre. Et donc, il y a deux choses extrêmement intéressantes qui sont sorties de cet exercice. Un, c'est que la plupart des gens, donc il y a beaucoup, beaucoup de questions, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au milieu. À un certain moment, ils n'arrivent plus à répondre parce qu'en fait, même nous, on n'a pas un algorithme capable de répondre à ces questions. Donc, au début, c'est des questions assez facile, facile, enfin voilà,
C'est tout
qu'est-ce que ça veut
relatif,
dire
mais...
facile, quoi? Mais il y a une forme de notre moralité culturelle nous permet de répondre, en tout cas, alors qu'à un certain moment, on arrive et on est complètement incapable de répondre. Moi, je l'ai fait moi aussi, je me suis arrêtée, je sais pas quand, parce que je savais pas combien il y en avait, mais je me suis arrêtée parce qu'à un moment, je dis, bah, je sais pas, j'en ai marre. Et la deuxième chose qui était intéressante, c'est justement, donc, ils ont catégorisé ça par pays, et donc, ils ont visualisé les résultats par rapport au pays. Et c'est là qu'on voit que justement, il y a des biais culturels énormes, notamment le Singapour qui donnait une importance pratiquement absolue à est-ce que la personne était en tort ou pas. Et donc, si elle était en tort, c'est OK de la tuer. Si elle n'était pas en tort, faut pas la tuer. La France qui donnait beaucoup d'importance aux enfants, donc on n'aime pas tuer les enfants dans notre culture française. Et les pays du Moyen-Orient qui, par contre, ne donnaient pas vraiment beaucoup d'importance aux femmes. Voilà. Et
Classique.
donc, c'est vraiment c'est intéressant parce qu'effectivement, d'une certaine façon, on est en train de se dire, l'intelligence artificielle va peut-être permettre de prendre des meilleures décisions justement parce qu'il n'y a plus ces
Ces biais
émotions,
culturels.
les biais, etc. Mais d'une autre façon, bah, le biais fait partie de l'homme, il fait partie de notre culture surtout. Et donc, comment est-ce qu'on peut concevoir une moralité objective? Ça n'existe pas. Et donc, comment est-ce qu'on peut enseigner à une machine alors que nous, on ne la
Nous-mêmes, on
comprend
n'a
pas
pas.
nous-mêmes, quoi?
Et tu parlais tout à l'heure de blockchain. Donc là, on a parlé un petit peu d'intelligence artificielle. La blockchain, c'est quoi les défis par rapport à la gouvernance?
Bah, donc, la blockchain, c'est par rapport à l'autonomie opérationnelle. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on crée des systèmes qui ne sont théoriquement contrôlés par personne. Donc on déploie un mécanisme sur la blockchain et en fait on peut plus le stopper, le modifier, l'influencer, etc. Enfin, on peut pas changer la façon dont il va s'exécuter. Après, évidemment, il y a les personnes qui vont quand même interagir sur ces machines, donc on a une forme d'influence par rapport à l'individu qui interagit. Donc les nouveaux défis, c'est comment est-ce qu'on peut réguler ces mécanismes, puisqu'on peut créer donc ces systèmes automatisés. Après, on va pas rentrer dans la science-fiction, mais l'idée ultime, c'est si on mélange l'intelligence artificielle avec la blockchain, donc on a autonomie décisionnelle et opérationnelle, on a Skynet. Mais bon, ça, on a encore quelques années avant d'arriver là. Mais par contre, aujourd'hui, c'est vraiment les questions de comment est-ce qu'on fait dans cette approche qui est complètement décentralisée, quelle forme de gouvernance est-ce qu'on peut adopter? Et le problème aujourd'hui, le gros défi de la blockchain, c'est que on ne connaît pas beaucoup de mécanismes de gouvernance décentralisée. Et celui qu'on connaît le plus, et c'est effectivement celui qu'on retrouve tout le temps dans les applications blockchain, c'est le marché. Donc le marché qui paraît en théorie, donc le marché parfait compétitif, qui effectivement permet une forme de coordination indirecte des individus. Le problème, c'est que on l'a vu tout au long de notre histoire, bah, un système parfait théoriquement ne fonctionne pas en pratique, puisqu'il y a toujours une concentration des pouvoirs. Et en fin de compte, ça devient presque ironique, puisque le but de ces systèmes, c'est de créer un système décentralisé. Donc, on va créer un système théoriquement décentralisé qui est opéré par un modèle de marché, qui en fait va se concentrer et qui devient en fait complètement centralisé au niveau de la gouvernance. Donc, en fait, on est en train de... C'est un système qui s'auto-défaitiste, ouais, d'une certaine façon. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est les questions les plus... Pourquoi je m'intéresse à la gouvernance, c'est ça. je pense qu'on a... Si on veut vraiment que ces systèmes décentralisés fonctionnent, on doit trouver des nouveaux modèles de gouvernance qui permettent un système décentralisé, mais qui ne sont pas fondés sur des optiques de marché. Et c'est pas facile.
Non. Ouais. Et du coup, pour toi, est-ce qu'il y a des solutions, il n'y a pas de solutions qui ont été définies ou de best practices, entre guillemets, de bonnes pratiques qui ont été trouvées à date
Pour l'instant, vraiment aujourd'hui, si on regarde la gouvernance de la plupart de ces systèmes, c'est essentiellement soit ils vont se baser donc, sur des modèles donc, de proof of work, que c'est essentiellement plus j'ai investi d'argent dans le minage, plus j'ai de décisions, donc très plutocratique. Soit il y a des modèles qui vont faire donc le proof of stake, c'est pareil, donc plus je mets d'enjeux économiques, plus je vais avoir un pouvoir décisionnel, donc on est encore dans un modèle complètement plutocratique. Et après il y a tous les modèles de proof of authority, où là par contre on va identifier les acteurs, donc on rentre dans un modèle centralisé où il y a une personne qui va décider qui sont les acteurs qui peuvent décider. Et donc il nous manque en fait des alternatives qui ne sont pas uniquement, en tout cas, basés sur des modèles de marché. Il y a certaines expérimentations, il y a beaucoup de recherches qui se fait, en tout cas, notamment sur les systèmes de réputation, etc., ou comment combiner les systèmes de parce que le système de marché est très efficace, malgré tout. Donc, si on
n'a
rien
trouvé de mieux, en tout cas.
Pour l'instant, c'est très efficace dans le concept d'efficacité. Après, ça, ce n'est pas du tout démocratique.
Oui, c'est ça, c'est bien le problème.
Donc, en fait, il faut trouver des mécanismes d'utiliser le marché pour ce qu'il est bon à faire, mais ensuite de le contrebalancer avec une autre forme de contre-pouvoir qui, elle, va être basée plus sur un modèle de réputation, de méritocratie, où on ne sait pas trop, quoi. Et le gros problème actuel, je pense, au niveau de la blockchain, c'est que justement, le but de la blockchain, dans les blockchains publics, c'est la pseudonymité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir cette entité centralisée qui va déterminer l'identité des personnes. Et donc, on crée un système qui est pseudonyme. Et le problème, c'est que le système ne comprend pas le concept d'identité. C'est externe au système. Et donc, quand tu parles de décentralisation, tu parles de décentralisation par rapport à quoi ? Parce qu'en fait, si tu n'as pas la notion d'identité, tu peux pas... Le concept de décentralisation par rapport à une identité n'a pas de sens. Donc, le système par lui-même est incapable de... Tu peux pas concevoir, quoi qu'il soit, un système qui va comprendre l'existence d'une identité, parce que c'est externe au système.
Oui, bien sûr.
Et donc, le concept de décentralisation par rapport à l'identité n'a pas de sens non plus. Et c'est pour ça qu'en fait, on retombe toujours dans des mécanismes de marché où c'est la décentralisation par rapport à l'hashing power ou par rapport au token, mais on ne sait pas si c'est une personne qui détient tous les tokens.
Bien sûr. Ouais, c'est tout le problème.
Et c'est pour ça, moi je m'intéresse beaucoup à observer donc toutes les recherches qui se font par rapport au système de réputation. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement obligé d'aller identifier l'individu comme une identité, ma carte d'identité, mais par rapport aux contributions, par rapport aux actions que j'ai par rapport à une communauté.
Ce qui se fait sur Wikipédia d'ailleurs.
Notamment, exactement. Après, Wikipédia, ça reste un système centralisé, donc en fait, c'est plus facile. Mais c'est plus difficile. Un système de réputation décentralisé, c'est pas facile à développer.
Non.
Parce que justement, il y a tout le monde qui va essayer de tricher pour augmenter leur réputation.
Exactement.
Mais bon, c'est des recherches extrêmement intéressantes et j'espère qu'on arrive à avancer quelque part.
Quelque part. Merci beaucoup. Et alors, du coup, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, j'aimerais savoir à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte.
Si tu me demandes comme ça, moi je dis à la blockchain.
Mais alors, faut que tu expliques un peu quand même.
Hein ? Non, mais c'est pas vrai, c'est pas que je veux lui claquer la porte, mais j'aimerais bien qu'on arrête de regarder la blockchain comme étant justement cette solution magique à tout, parce qu'en fait, elle résout certaines choses, mais en résolvant ces choses, elle soulève tous des nouveaux problèmes. Donc c'est pas vraiment que je veux pas lui claquer la porte comme ça méchamment.
Pourtant, t'es italienne, hein ?
Peut-être je veux la lui un petit peu, pas trop, pas qu'elle soit pas complètement ouverte, parce qu'en fin de compte, je pense qu'il faut énormément de recherches là-dedans pour vraiment arriver à comprendre la mesure. Et c'est pas, ça va pas résoudre tout, mais peut-être certains éléments peuvent être pris et peuvent être combinés au sein d'un système de gouvernance pour l'améliorer.
Ok, super, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.